Septième rencontre. L'histoire d'Hamza Beg a été un peu longue, mais il nous semble que si la sultane Scheherazade l'eût raconté au sultan Shahriar, il n'en se serait pas plaint plus que les autres et n'eût pas fait couper la tête féconde de la belle rhapsode avant d'avoir vu au moins ce qui était devenu de la tête chauve d'Hamza. Maintenant, Kouroglou arrive à un épisode de sa vie qui se distingue de tous les autres par sa brièveté et sa couleur sinistre. Il y a un crime dans la vie de ce héros, et à partir de ce moment, on voit le signe de la colère divine se lever à son horizon et envahir peu à peu la splendeur de son ciel. Le rhapsode n'en fait pas la remarque, il ne dogmatise pas. On voit même qu'il raconte, sans figure et sans complaisante métaphore, comme à regret et pénétré d'effroi, le crime de son héros. Mais l'admirable instinct philosophique qui est dans la conscience des poètes populaires se révèle dans l'enchaînement des aventures de Kouroglou. Qu'on ne croit donc pas que ce sont des épisodes pris au hasard dans le roman capricieux de sa vie errante. Non, la mémoire populaire est un artiste ingénieux, un poète qui ne manque pas de profondeur. Au premier coup d'œil, nous avions pensé que la vie de Kouroglou n'était qu'un conte héroïque et comique. Mais arrivé à la septième rencontre, et voyant ensuite se dérouler la suite de ses derniers succès, puis de ses imprudences, puis de ses revers et de ses profondes douleurs, enfin de ses infortunes jusqu'à sa mort déplorable, nous avons reconnu que c'était là un véritable poème, avec son sens philosophique, sa moralité et sa personnification de l'être humain, d'une race peut-être en particulier, dans un individu poétique. Nul doute que Kouroglou a existé et que le fond de son histoire est authentique. C'est le Napoléon de la race nomade, et s'il est déjà devenu fabuleux, c'est que pour les esprits illettrés, deux siècles équivalent peut-être à 2000 ans. Mais la tradition fait l'histoire d'après les mêmes règles morales qu'observent les hommes de génie pour l'écrire. Elle comprend qu'un héros n'est qu'une incarnation plus riche de l'esprit qui anime ses contemporains. Elle ne lui donnera donc ni vertu, ni vice, ni faculté qui ne soit en rapport avec ceux de sa race et de son temps. Kouroglou, traversant les précipices et les fleuves à la course de son cheval, massacrant à lui seul une armée, mangeant et buvant comme les héros de Rabelais, est au fond de ce milieu fantastique un homme très réel, un caractère très sainement développé. C'est ainsi qu'a procédé Hoffmann dans ses bons jours. C'est pour cela que parmi de nombreuses aberrations, il a créé plusieurs chefs-d'œuvre. Kouroglou était marqué en naissant d'un signe de grandeur. Il avait de grandes choses à faire pour lui-même et pour sa race. Venger le supplice de son père et affranchir les vaillants hommes de son temps du joug des sunnites impies. Mais comme les vaillants hommes de son temps, il est né téméraire et orgueilleux. Une ardente curiosité, une vanité secrète, l'ont déjà privé d'une partie des avantages que son père le magicien devait lui procurer. On se rappelle que ce père, ce magicien, qui entre nous me paraît être une personnification du destin, tout-puissant et aveugle comme lui, lui avait préparé par ses savantes incantations un cheval qui lui portait jusqu'au ciel, car il avait des ailes, et c'est un regard d'irrésistible curiosité de Kouroglou qui les a fait tomber de ses flancs lumineux. « Kirad sera encore le premier cheval du monde, » a dit le père, « mais ce ne sera plus Pégase, et ses pieds rapides sont pour jamais enchaînés à la terre. » Une seconde imprudence de Kouroglou cause l'éternelle douleur et la mort de son père. On se rappelle qu'il devait lui rapporter dans un vase l'écume d'une source mystérieuse, mais l'écume le tente, il la boit, et le père ne verra plus la lumière des cieux. « À partir de ce jour, tu n'es plus Roushan, » dit le magicien, « tu es Kouroglou, le fils de l'aveugle. c'est-à-dire le fils du destin, et ce nom fera ta gloire et ta condamnation. Tu as vengé ton père, mais tu l'as laissé périr. Tu seras le plus grand guerrier de ton siècle, mais tu seras maudit. Tu porteras la peine de ton orgueil au milieu de tes prospérités, et comme ton père, tu finiras misérablement. Jusqu'ici, nous avons vu réussir, comme par miracle, toutes les audacieuses tentatives de Kouroglou. Il a rassemblé 1000 hommes de chaque tribu, il s'est bâti une forteresse que nul souverain n'ose plus attaquer. Il a enlevé à Ivaz et Nigara, ces deux objets de sa tendresse, mais à Ivaz le taillera, et Nigara, pas plus que ses 777 femmes, ne lui fera connaître la joie et l'orgueil de la paternité. Chacune de ces entreprises sera couronnée de succès en apparence et sera expiée dans l'ensemble mystérieux de sa vie par de poignantes douleurs. On verra bientôt, et on l'a déjà vu par ce cri de l'âme qui lui échappe au milieu de ses plus menaçantes improvisations, « La vie est un fardeau pour moi », qu'il pressent la fatalité attachée à tous ses pas. L'orgueil est son mauvais ange. L'orgueil doit le perdre. L'orgueil le rend criminel. Cet orgueil sera châtié. Ses grandes facultés, je ne sais pas s'il ne faut pas dire pour entrer dans l'esprit de la race qui le chante, ses grandes vertus, l'ambition, la cupidité, la ruse, la volupté, l'intempérance, la soif du sang, tout ce qui l'a fait grand et heureux parmi les héros de sa race, va l'abandonner peu à peu, parce qu'il a abusé de ses dons du ciel. Je parle comme un rhapsode turcoman. Faites-moi le plaisir de m'écouter en bon turcoman. Oui, c'était l'un des dons du ciel. Il était le plus grand des fourbes. Honte à lui. Il va devenir confiant et sincère, parce qu'une fois, il a fait un mauvais usage de sa ruse et de sa prudence. Il dressait des embûches et l'ennemi ne manquait jamais d'y tomber. Gloire à lui! Mais une fois, il a tendu le piège à celui qu'il devait respecter et désormais, il sera pris dans ses propres filets. Malheur à lui! Il était bandit et meurtrier, rien de mieux. Une fois, il est devenu assassin. Désormais, le poignard sera toujours levé sur lui. Malheur au fils de l'aveugle. Voilà, je crois, le raisonnement qu'il faut mettre dans la bouche du rhapsode pour comprendre la 7e rencontre et la suite des jours de Kouroglou. Appelons maintenant l'exemple à notre aide. Kouroglou avait, comme on sait, l'innocente habitude de détrousser les marchands qui poussaient la folie ou l'insolence jusqu'à lui refuser un modeste tribut de 500 tuments en pur sang sur ses terres. Mais il n'avait pas souvent cet embarras, parce que les riches voyageurs, ayant appris à le connaître, allaient désormais au-devant de ses désirs et ne faisaient plus tirer l'oreille pour s'exécuter. Kouroglou était si sûr de son fait qu'il s'en allait tout seul, déguisé le plus souvent en aouchik, au beau milieu de la caravane, et quand il était un peu diverti aux dépens de ses hôtes, quand il leur avait bien fait peur de l'ogre Kouroglou, quand il leur avait dit « Seigneur, prenez garde, Kouroglou est toujours là, où on l'attend le moins, peut-être est-il déjà parmi vous, mais pour sûr il y sera bientôt. » Alors le sycophante, en les voyant pâlir, renfonçait sa guitare, levait sa massue et criait de sa voix de stentor « Voilà, Kouroglou !» Aussitôt les marchands de se prosterner, de se frapper la poitrine, de s'arracher la barbe et de crier « Merci !»« Guerrier, disait-il, nous savons que tu as porté le tribut à 500 tuments, mais si tu exiges le double, nous te le donnerons à condition que nous ne verrons pas le visage de Dali Hassan. » On se rappelle que ce Dali Hassan, ancien brigand pour son compte personnel, vaincu par Kouroglou, s'était attaché à lui par reconnaissance, a grossi son armée par de nombreux enrôlements et qu'il se distingue dans toutes les entreprises. Mais il paraît que sa cruauté est excessive. Lorsque Kouroglou, toujours fidèle aux lois qu'il a instituées, a répondu aux marchands « Oh non, c'est bien assez !» Il revient vers ses compagnons et Dali Hassan, qui l'attend au pied de la montagne en léchant ses moustaches comme un tigre qui a soif, lui demande la permission d'essayer le tranchant de son sabre sur ses marauds afin de leur arracher quelques barils de vin par-dessus le marché. Mais Kouroglou lui répond « Vous connaissez le proverbe arabe ?» La justice constitue la moitié de la religion. » Et il rentre à Chamlibil les poches pleines d'or et le cœur de bons sentiments. Mais hélas, il est arrivé ce jour néfaste où le héros doit être mis à la plus rude épreuve et où sa vanité doit déchaîner les malédictions suspendues sur sa tête. Il faut suivre ce récit dans l'original. Un jour, Mohamed Beg de la tribu des Qajars vint visiter Kouroglou avec 12 000 hommes de cavalerie. Ils demeurèrent à Chamlibil, buvant et festoyant, jusqu'à ce que les celliers et les cuisines de Kouroglou fussent complètement vides. Le sommelier et le cuisinier vinrent ensemble l'annoncer à Kouroglou et dirent Tes hôtes ont mangé et bu tout ce qu'il y avait ici. Ils n'ont pas même laissé les croûtes ou la lie. » Kouroglou envoya ses gardes rôder dans le voisinage et bientôt après, on lui signala une caravane. Il fit seller Kirat et, armé de pied en cap, il se dirigea vers la prairie. Il regarda et vit une immense caravane campi sur ses pâturages. Tout annonçait que le marchand était un homme puissamment riche. Et dans une tente dressée pour la circonstance, on voyait deux Turcs assis et jouant au tric-trac. Kouroglou arriva jusqu'à eux et dit « Salam ». Un des Turcs l'aperçut et dit « Homme, descends le cheval ». « Non, je ne veux pas descendre ». D'où viens-tu ? Et quoi ? N'avez-vous pu déjà reconnaître Kouroglou ? Bien, cela est tout à fait différent. Kouroglou est un grand homme. Nous lui paierons un tribut pour le séjour que nous avons fait sur ses terres. Kouroglou crut que le marchand voulait se débarrasser de lui par une plaisanterie, car il ne s'était pas levé pour lui témoigner son respect quand le nom de Kouroglou était sorti de ses lèvres. Il se recula et, visant avec sa lance le Turc qui restait toujours assis, il fit cabrer son cheval. Le Turc lui dit alors froidement « Retiens ton bras, Kouroglou !» La pointe de la lance avait déjà effleuré la poitrine du Turc. Mais Kouroglou retint son cheval et s'arrêta. Le Turc dit « Tu devrais jeter un voile de femme sur ton visage. Il ne convient pas à des hommes d'agir ainsi. J'ai entendu raconter beaucoup de choses de toi. Mais je t'ai vu maintenant et tu ne mérites pas ta renommée. Un homme brave donne à son ennemi le temps de se mettre en garde. C'est le rôle d'une femme de combattre sans avertir et de tuer par surprise. « Laisse-moi au moins le temps de finir ma partie de tric-trac, de prendre ensuite mes armes et de monter sur mon cheval. Nous nous battrons alors en duel. Si je te tue et si je délivre le collier du monde de tes étreintes rapaces, des prières seront dites pour ton âme. Si au contraire tu réussis à me tuer, tu prendras toutes les richesses et les marchandises rassemblées dans ce lieu. » Kouroglou écouta patiemment et reconnut la justice de ses paroles. Il attendit donc qu'il plût au marchand de s'armer et de monter à cheval. Quand cela fut fait, le Turc dit « Kuroglou, tu dois commencer. Tu es libre de m'attaquer de telle manière et avec telle arme qu'il te plaira. » Kuroglou avait 17 armes sur lui et il fit autant d'attaques différentes, mais elles furent toutes parées ou repoussées. Le Turc s'écria « Viens plus près, prends-moi par la ceinture et vois si tu peux me faire descendre de cheval. J'aimerais à éprouver ta force. » Kuroglou saisit le marchand à la ceinture et tâcha de le désarçonner, mais le Turc se tint ferme sur sa selle comme s'il eût été cousu. Le Turc dit « C'est maintenant mon tour, laisse-moi te faire éprouver ma force. » Il saisit la ceinture de Kuroglou et le secoua d'une telle façon que ce dernier fut sur le point de tomber et même un de ses pieds avait déjà perdu l'étrier. Le Turc, comme s'il dédaignait de profiter de sa victoire, lâcha la ceinture de Kuroglou, quitta son armure et, descendant de cheval, il invita Kuroglou à entrer sous sa tente et à devenir son hôte. Kuroglou descendit avec soumission de dessus Kirat, se glissa dans la tente comme un rat et prit humblement un siège. Il se sentait si honteux qu'il osait à peine respirer. Le Turc baissa la tête comme auparavant et se remit à jouer au tric-trac avec son compagnon. Kuroglou vit que le Turc était un homme plein de courage et de noblesse. Fidèle à son habitude de dire en face à l'homme brave qu'il était brave et au poltron qu'il était poltron, il accorda sa guitare et chanta au marchand l'air suivant. Improvisation. J'ai demandé à ses esclaves et à ses serviteurs qui il était. Ils ont tous répondu « C'est le seigneur des seigneurs, un marchand guerrier. Il possède plus d'or qu'on en peut trouver dans Alep ou dans Damas. C'est le lion du désert. Son coursier est couvert de la dépouille du léopard. Il ne daigne pas jeter un regard sur un ennemi ou sur un ami. J'ai lancé mon cheval contre lui. J'ai levé ma massue au-dessus de sa tête. Le marchand, alors, a poussé un cri et s'était lancé de sa place. Le Turc sourit et regarda l'autre joueur d'une manière significative, car il était évident que le chanteur mentait par habitude de se vanter. Kuroglou dit dans son cœur « Mais le maudit se raille de moi !» Il reprit ainsi, improvisation. « Oh mon Dieu, tu l'as créé sans défaut. Il n'a de serviteur que de toi seul, mais envers tout le reste du monde, il est impérieux et superbe. Il a amassé des montagnes de marchandises et il s'est reposé. Il a jeté un regard à son compagnon et il a souri. Il a baissé la tête et il a joué au tric-trac. » Le Turc dit « Guerrier Kuroglou, pour ta poésie, je te paierai un tribut de 500 toumas. » Kuroglou pensait qu'il n'aurait rien de cet homme qu'il avait vaincu. Aussitôt qu'il entendit parler de 500 toumas, son cerveau recouvra la santé, il fut transporté de joie, et il improvisa ainsi. Improvisation. Il a mis sur ses oreilles le bonnet d'un derviche, sur ses épaules est un manteau d'hermine. Je lui ai chanté un air, le marchand m'a donné 500 tumans pour récompense. Le Turc, ayant versé l'argent devant le chanteur, il dit « Voici mon tribut de 500 tumans. Si tu veux accepter mon invitation, Dieu merci, nous ne manquons pas de vin ni de cabagues. Il y a toutes sortes d'aliments préparés. Si tu ne veux pas venir et que tu préfères t'en aller, tu es le maître. » Kuroglou dit « J'aimerais mieux partir, si tu daignais me le permettre. » Kuroglou, ayant mis l'argent dans sa poche, prit congé de son hôte et retourna à Chambilly. Quand les bandits virent l'argent, ils le félicitèrent de sa victoire. Kouroglou dit « Ne m'insultez pas, chien que vous êtes. Ce ne sont pas des étouffements, mais bien autant de gouttes de mon propre sang. Cet homme m'a vaincu, mais il n'a pas voulu me tuer, et de plus, il m'a payé mon sang avec cet argent. » Il ordonna à ses gardes de veiller le moment du départ du marchand et de le lui annoncer. À partir de ce moment, Kouroglou sent décroître la conscience de sa force. Il n'ose plus sortir seul. Quant à Ivaz vient lui dire « Ne veux-tu pas faire une sortie, Seigneur ? Nous sommes à la fin de l'automne. Si la neige tombait cette nuit, les routes seraient interceptées, nous ne trouverions plus de voyageurs à rançonner. Cependant, ta caisse et ta panetterie sont vides. J'aperçois une caravane, allons !» Kouroglou répond « Retire-toi. Le premier marchand était un homme sage, il n'a pas voulu me tuer, mais un autre peut être fou. » Kouroglou ne voulait pas confesser devant ces gens qu'il était continuellement tourmenté par l'idée de la supériorité du Turc qu'il avait vaincu. Il résolut de voir encore une fois son heureux adversaire. Après bien des perquisitions, il sut le jour où le marchand devait quitter Ezroum. Il partit d'avant lui et se posta dans une passe de montagne de l'autre côté de la ville où passait la route. Le Turc était seul à cheval, ayant laissé sa caravane derrière lui à quelque distance. Kouroglou se sentit transporté de fureur. Il poussa son cheval sur le marchand, le jeta à bas de sa selle et coupa la tête de l'homme renversé. Il sentit bientôt sa rage se calmer et, fâché de ce qu'il avait fait, il chanta ainsi, improvisation. « Bex, écoute-moi. Sur le chemin d'Alen, je rencontrai un marchand. Je rencontrai un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur sa route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Rosengan. J'ai rencontré un marchand. L'ayant dépouillé de ses vêtements, Kouroglou vit que ce n'était pas un Turc, mais un Arménien, et il chanta, improvisation. Sa mort m'a délivré de mille maux. Je l'ai accepté avec délice, comme un bouquet de roses. J'ai dépouillé le corps et j'ai vu que c'était un Arménien. Oh, que les montagnes se couvrent de brouillard, que des torrents ruissellent de leur sommet. » Pour laver le déshonneur d'avoir traîtreusement attaqué l'homme sans défense, les Persans haïssent, à cause de quelques différences de religion, les Turcs sunnites, plus encore que les chrétiens s'il est possible, de sorte que Kouroglou cherche une consolation dans la pensée qu'il a trouvé que son supérieur à tous égards n'était pas un sunnite, mais un arménien. Note de Chodsko. Kouroglou, que tes bras sont desséchés, j'ai rencontré un marchand. Cet Arménien est évidemment le plus grand personnage du roman de Kouroglou. Et n'est-il pas remarquable que ce héros, si supérieur à Kouroglou lui-même par son sang-froid, son courage, sa force et sa générosité, soit resté chrétien dans l'imagination des rhapsodes? Est-ce seulement par excès de haine contre les sunnites qu'on lui attribue un si grand rôle? Dans un autre endroit, nous avons vu la princesse Nigara s'attendrir très particulièrement jusqu'à vouloir se donner la mort pour un voyageur européen que Kouroglou menaçait de sa fureur. Il faut bien que dans ces têtes poétiques de l'Orient, le chrétien soit un être supérieur en dépit de la répulsion fanatique. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, nous paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Kouroglou. Elle a la concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance, toujours vivantes dans le cœur du meurtrier, entonnent le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent la mort de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis aussitôt le désespoir du maudit étouffe l'hymne impie. Oh, que les montagnes te couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Kouroglou, que ton bras soit desséché, et le bon refrain, si bête et si sombre, j'ai rencontré un marchand, en dit plus qu'il n'est gros. Nous connaissons certains refrains romantiques des ballades modernes qui cherchent le terrible et le naïf à l'imitation de ces formes populaires. Aucun ne m'a fait l'impression de ce « j'ai rencontré un marchand » qui vient si à point, qui résume si bien le souvenir d'une action qu'on ne veut pas savoir à soi-même et qui, ne cherchant ni le naïf ni le terrible, rencontre l'un et l'autre, à la grande honte des faiseurs de nos jours. Kouroglou devait être un grand poète. Il ne pensait qu'à la rime et trouvait l'effet. M'est avis qu'aujourd'hui, nous faisons le contraire. À partir de ce moment, la fatalité s'apesantit sur Kouroglou. Après quelques exploits où ses imprudences le mettent à deux doigts de sa perte et où il succomberait sans l'héroïque secours d'Aviar et de ses compagnons, il est fait prisonnier, traîné à la queue d'un cheval, nourri des eaux qu'on lui jette comme un chien, enfin attaché à un poteau pour mourir sous le fouet et le bâton. Il échappe pourtant à cette épreuve terrible, mais c'est pour retrouver Shanley Bill en pré-évolution. Ayvaz le hait et le maudit comme un tyran, ses meilleurs amis le trahissent et l'abandonnent. Le combat qu'il est forcé de leur livrer est d'une haute poésie épique. Sa douleur, son amour pour Ayvaz, son indignation touche parfois au sublime. Enfin, Kouroglou, devenu vieux, s'éprend encore d'une princesse étrangère et veut l'enlever. Surpris et jeté dans un puits, il y devient si gras, ce qui pour un homme tel que lui est le comble de l'abjection et de la honte, qu'il est retiré de l'abîme et délivré à grand-peine. Mais l'esprit du grand homme est affaibli. Pris par ses ennemis, il finit esclave et aveugle comme Samson, après avoir vu tuer Kirat sous ses yeux, et dès lors la mort est un bienfait pour lui. Ses derniers chants d'agonie ont encore de la grandeur et le montrent puissant et résigné. Il y a de l'analogie entre la fin de ce poème et celle de la légende des quatre fils Aymon. Nous n'avons traduit qu'une faible partie de cette curieuse épopée de Kouroglou. La fin est surtout frappante, mais nous ne voulons pas priver l'ami qui nous a aidés à traduire du plaisir de la donner elle-même au lecteur dans une publication complète. Fin de Kouroglou.